13h08, 418-971-101, si vous voulez nous rejoindre en studio. J'espère que vous passez un bon début d'après-midi. Denis Gravel qui va être là à partir de 14h. Qui j'ai ce soir à 18h? J'ai un blanc de mémoire.
Fat
ah oui, c'est les expats! On va parler de pour les gens qui veulent se pousser là, à l'extérieur.
Avez-vous
du
déjà
Québec?
Hésité, sacrer votre camp ailleurs dans le monde pour travailler?
Moi, je l'ai fait quelques fois. Je l'ai fait à raison de 6 mois, 7 mois là, aux États-Unis. J'ai adoré, mais revenir aussi, ça faisait du bien. Est-ce que je serais prêt à faire le saut pendant plusieurs années? C'est une bonne question. J'aurais dû le faire.
Mais t'en parles souvent. Tu dis souvent, ah, partir avec mon salaire en Thaïlande ou je sais pas quoi, je vivrais richissime.
Ouais, en Thaïlande ou en Amérique du Sud ou tu sais dans des endroits où ça coûte pas
ouais,
trop cher
plein,
de vivre.
Ouais.
ou la température. Ouais, parce qu'il y a un gars qui part seul en Thaïlande. C'est...
Yannick obsède, il veut tout le temps aller en Thaïlande.
Méfiez-vous! Mais oui, on va parler de comment faire pour se pousser de la planète Québec avec un expat. J'ai bien hâte de jaser avec lui. Sinon, j'avais des choses à vous jaser. Ah, j'ai ça ici. Je vous parle de Rodeo avec la belle gang de la NSPW. C'est pour une 3e année, la lutte NSPW qui va débarquer au Rodeo Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ils nous promettent un spectacle à couper le souffle. Ça se passe le jeudi 26 juin à 20h. On fait tirer d'ailleurs une paire de billets pour le gala de lutte. Pourquoi pas terminer la soirée avec un spectacle hommage à AC/DC avec le groupe AC/DC Experience par Hell's Bells Québec. Ça va être une soirée incroyable en perspective. Et le Rodeo de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, c'est 3 jours d'émotion forte du 27 au 29 juin avec un rodéo chaque jour. 75% des estrades sont couvertes. Tu peux même y aller juste pour l'ambiance car l'accès au site, ben, c'est gratuit avec la place de la famille, spectacles musicaux, dance country, restaurateurs et exposants. Si vous voulez connaître la programmation complète, les options pour le camping ou encore acheter vos billets, ben, visitez rodeo scjc.com. Faites vite, les billets sont sold out à chaque année, achat en ligne seulement, aucune billetterie sur place. Et j'ai une paire de billets actuellement pour le gala de lutte le 26 juin. Le mot de passe que vous m'envoyez à l'instant par texto au 88-971-1021, je veux voir le plus gros hi-ha possible.
Pas de faute? Ah!
Pas de faute!
Pas de faute dans hi-ha!
Pas de faute dans hi-ha! Mathieu Thomassin, salut!
Hey, bon midi à mes animateurs préférés et aussi aux auditeurs.
On parle ben, écoutez, du merveilleux monde de l'automobile.
Oui, effectivement. Puis je tenais à vous préciser de ne pas lâcher le micro, c'est important. Et rappelez-vous une chose, les auditeurs vous aiment et c'est ça qui est important.
Keep the head up, buddy!
Yes, sir!
Yes! Hey, j'ai lu un article, je pense que c'était dans la presse avant-hier avant-hier. Et ça parlait des Tesla, les modèles Tesla qui sont moins populaires au Québec qu'ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on a une raison pour ça?
Écoute, est-ce qu'on a une raison? Pourtant, au Québec, je te dirais que les Tesla sont énormément appréciés. On a un réseau aussi de bornes de recharge qui est extrêmement, je te dirais, efficace. Donc, on cherche pas nécessairement toujours des bornes de recharge. Non seulement les Tesla Supercharger aussi qui sont disponibles au travers de tout ça, qui permettent d'avoir une vélocité qui sont implantées dans les grands centres. Mais il faut pas oublier que qu'est-ce qui fait qu'il y a une baisse de popularité présentement? C'est le côté électrifié. Hein? Il y a eu une grosse mode dernièrement où c'est très, très tough présentement avec l'appréciation des véhicules électriques. On n'oublie pas non plus qu'Elon Musk fait parler énormément de lui au travers de la politique américaine, certains gens qui ont voulu se dissocier et qui est sensible aux politiques d'ailleurs et non seulement aux images, aux impressions, les Québécois. Donc souvent, je trouve que ça peut jouer au travers, on adhère ou on n'adhère pas aux véhicules. C'est drôle parce que j'écoutais justement NBC hier, le reportage, et on parlait justement d'Elon Musk qui n'était pas tout à fait d'accord avec ce qui était des politiques, voire même de M. Trump, où est-ce qu'on semble vraiment se séparer et où est-ce qu'on semble un peu se challenger. Et ça disait dans le reportage, si Elon répondait aux gens, ben, ceux-là qui délaissent mes voitures parce que je suis rendu spécial, dites-vous, chers journalistes, qu'il y en a qui adhèrent parce que je suis spécial. Donc, c'est paradoxal toujours l'adhérence à une marque, à un véhicule. L'autre chose aussi, pas les véhicules les plus fiables. Est-ce que les gens s'en sont rendus compte en termes? Puis là, en passant, c'est pas juste moi qui le dis, là. On le sait, on en voit, il y a d'autres journalistes qui le disent. Donc, à quelque part aussi, quand tu paies 80 000 un véhicule, c'est pas un icône de fiabilité, ça fait mal dans le portefeuille.
Ouais. Les statistiques, là, j'ai retrouvé l'article, c'est un article de David Descoteaux, c'est entre janvier et mars 2025, pour ce qui est des Tesla, là, ça a chuté de 90 % les immatriculations.
Intéressant. Faut pas oublier aussi qu'il y a un gros blitz, hein, de vente qui s'est fait lorsqu'on jouait avec les incitatifs gouvernementaux aussi, où est-ce qu'on a créé un rush. Et on se rappelle aussi que Tesla a fait jaser en lien avec tout ce qui était un nombre de crédits qu'on avait demandé extrêmement rapidement. Puis, l'autre chose aussi, dans les dernières nouvelles qu'on a vues dernièrement, c'est qu'il y a des véhicules de Tesla qui perdent 40 % de leur valeur en 8 mois seulement. Et ça, ça fait mal.
Ça a beaucoup été jasé aussi pour les pièces, la réparation. Tu sais, dans le premier buzz d'engouement, là où ça s'est amenuisé, moi, ce que j'entendais des propriétaires autour de moi, c'est ça. C'est pas « je regrette ma voiture », mais quand ils parlaient, c'est « oh, on n'était peut-être pas prêts, là, toujours, là ».
Oui, puis rappelez-vous les promesses d'Elon continuelles de véhicules électriques abordables, hein, d'un Cybertruck qui allait coûter une binerie. Bien, les Cybertrucks, là, présentement, là, il y a des gens qui achètent ce véhicule-là au coût de 127 000 $ et qu'après à peine, même pas une année, disons que pour une raison X, tu veux changer de véhicule, ça c'est un peu spécial aussi comme comportement, bien, quand tu te fais offrir seulement 78 000 $ c'est une méchante dépréciation. Il ne faut pas oublier qu'ailleurs, présentement, dans l'industrie, les camionnettes, les véhicules hybrides conservent le mieux leur valeur. Ils perdent 40 % mais seulement après 5 ans. Et là, j'embarque même pas dans le japonais hybride ou encore les anciens Tacoma ou les Jeep Wrangler qui, eux autres, ont une valeur résiduelle phénoménale au travers du temps. Donc, je te le dis, donc, la philosophie aussi de Tesla au travers le temps a beaucoup changé, hein. Elon avait des disciples qui le suivaient les yeux fermés, mais aujourd'hui, on dirait qu'ils ont vu la vraie parole et peut-être qu'ils changent un peu de direction aussi.
Parfait. On parle de RAM maintenant. Il y a quelque chose de gros qui va sortir le 8 juin pour ceux qui trippent sur les RAM.
Oui, effectivement. RAM fait un petit lancement assez obscur sur Instagram. Si ça vous intéresse, allez voir sur RAM Trucks. Ce qu'on voit, c'est comme une annonce qui dit que rien n'arrête un RAM. Et il y a une personne qui vient comme prendre de quoi à la table et qui est habillée comme un pilote de jet. Donc, là, tu te dis, c'est quoi qu'il essaie de nous dire? Est-ce qu'on va avoir un nouveau TRX ou encore un nouveau SRT qui va être capable de dépasser des forces G? Est-ce qu'on va avoir ce que tout le monde voulait peut-être, un moteur 392 dans un simple câble pour un RAM 1500? Je le sais pas.
Fait que ce sera un 1500 TRX?
Ben, je le sais pas. C'est difficile à dire présentement. Il y a beaucoup de suppositions là, qui sont faites au travers de ça. Mais ce que je peux dire, c'est que RAM est en train d'être assez agressif, tant au niveau de la performance qu'au niveau quand même d'écoute des gens. Puis faut pas oublier qu'il y a eu quelques années très décevantes pour la marque RAM. On veut faire un genre de retour, si on veut, mais la prévision, c'est toujours particulier. Hein? La prévision des ventes, c'est pas évident là, pour personne. Donc, ça révèle pas nécessairement grand-chose. C'est comme un argument marketing qu'on dirait. On essaie de placer un genre de Easter egg au travers de tout ça. C'est Tim Kuniski qui a été fraîchement nommé le directeur de RAM puis de tous les gros véhicules. C'est une personnalité Internet de la plateforme Diesel Brother qui discute à une table avec eux autres remplis de snacks, puis brièvement interrompu par un pilote de chasse qui complimente Tim pour sa veste. Écoute, ça nous laisse prévisager qu'on va avoir une bombe de vitesse ou encore de puissance qui va sortir, mais j'ai hâte de voir la saveur RAM. Donc, préparez-vous le 8 juin, on va voir l'annonce. Vos paris sont quand même ouverts et je prends tout ce qui est votre argent pour, bien entendu, le placer dans le coffre et voir qui gagnera.
Toyota, un possible sauveur pour Nissan. Est-ce que Nissan est en danger en Amérique?
Nissan, présentement, ça va vraiment pas bien. Je suis obligé de vous dire que je ne sais pas où cette compagnie-là s'en va. Mais présentement, on est en train de graffiner après chacune des compagnies hein, pour essayer de faire un genre de merge. Mais on dirait qu'on n'est pas très intéressant pour personne qui s'intéresserait à nous, autrement dit. Donc, là, présentement, la rumeur veut qu'il y ait un possible partenariat entre Toyota et Nissan. Il n'y a rien d'officiel pour le moment, mais on sait que Toyota est un joueur qui est majeur du côté de l'automobile. Donc, cette rumeur-là, si ça devient un partenaire potentiel, on sait toutes les technologies hybrides que Toyota possède dans lesquelles il pourrait avoir une belle implantation du côté de Nissan. Et ça serait une vraie bouée de sauvetage. On n'oublie pas aussi qu'on a besoin d'un style qui communique beaucoup plus avec les clients. On a besoin aussi de rehausser la fiabilité. Tout ce qui était les ventes dans le passé avec les CVT ou autres a créé une grande image mauvaise en tant que telle pour la marque. Et je te dirais que c'est quand même assez particulier que Honda a délaissé la partie de ce partenariat-là et qu'ensuite, oups, ça revient du côté de Toyota. Mais si un partenariat, ça va être à l'avantage de Toyota ou la main. Pourquoi? Parce qu'on est un constructeur qui est très en sécurité présentement du côté de sa production, du côté de sa fiabilité générale. Et non seulement, Toyota a un solide vent dans le dos présentement avec le nouveau RAV4, le nouveau 4Runner, toute la direction que Lexus est en train de prendre et non seulement l'expansion. Il ne faut pas oublier que Toyota aussi a un partenariat avec Subaru, avec Mazda. Tout ce qui est le BZ, Woodland, Subaru, Trail Seeker, c'est des véhicules jumeaux. Et on n'oublie pas aussi que Toyota n'est pas prêt à arrêter parce qu'il y a des rumeurs de petites camionnettes présentement pour Toyota. Ça, Nissan, quand même, de l'autre côté de l'océan, ont beaucoup de choses intéressantes. Mais tu sais, le King, c'est qui? Le King, c'est le Toyota Hilux et non pas les Nissan Patrol de ce monde.
Est-ce que le Ford Maverick, là, qui achète le Ford Maverick? Parce que tu ne peux pas mettre grand-chose dans la boîte en arrière, là.
Non, c'est pas nécessairement un véhicule qui est opulent. C'est un véhicule.
La tondeuse, elle peut rentrer, là, mais si tu as un 4 roues, ça ne rentre pas. Là.
Le Costco, l'épicerie. Soyons francs, un 4 roues, ça peut rentrer, mais panneau ouvert, peut-être même avec extension ou autre. L'avantage du Maverick, c'est qu'on a une version qui n'est pas très, très coûteuse aussi. Ford a augmenté le prix du Maverick au travers du temps. Mais ce qu'on a fait quand même, c'est qu'on a gardé le petit camion quand même assez abordable. Et l'autre chose aussi qui était intéressante, c'est toujours la motorisation hybride aussi au travers de tout ça, qui permet d'avoir une consommation d'essence qui est quand même assez particulière. Mais tu sais, une petite camionnette, Marceau, à un prix de départ de 37 000 là, je parle d'un PDSF, bien entendu, avec lequel tu es capable d'embarquer 1500 livres dans la boîte, qu'au moins tu es capable de remorquer 4000 livres, puis que quand tu vas avoir une version hybride, tu parles d'un 5,6 litres au 100 en ville, puis 6,7 sur l'autoroute. Et n'oubliez pas que vous connaissez Ford. Si jamais tu es craqué puis tu veux t'en aller vers une version très mort, bien, elle est disponible. La seule affaire, c'est que tu n'es plus à 36 000 PDSF, 36-35 000. Tu es rendu à 51 000 $ Mais là, tu as quand même une bête qui est beaucoup plus hors route un peu, si on veut. Dites-vous que le côté maniable, le côté efficace, le côté d'une petite entreprise, tu te promènes en ville, tu veux une camionnette économique, agile, que tu ne veux pas avoir la difficulté à stationner, une camionnette qui est capable de remorquer ton petit trailer fermé avec lequel tu as tes outils, tes trucs comme ça. Puis non seulement l'économie d'essence, aujourd'hui, là, ça devient une considération super importante, ben pourquoi pas. Seule affaire, ça brasse, c'est un petit camion qui n'est pas le plus confortable. Et je vous l'ai dit tantôt, le prix peut exploser rapidement. Puis c'est sûr que la version de base, l'intérieur, tu touches. C'est souvent, on nous reproche de dire que c'est plastique, mais là, c'est pas juste plastique, c'est vraiment de base cheapette.
Mais j'entends pas grand compliment de ta part, là.
Ben, c'est pas qu'il n'y a pas grand compliment, c'est qu'il faut être réaliste quand vous achetez un camion comme ça avec vos attentes. Vous ne révolutionnerez pas le monde du remorquage ni du transport dans la boîte. Mais pourquoi qu'on en voit beaucoup? C'est le faible prix, le côté hybride et le petit côté maniable. Ça reste quand même un véhicule intéressant. Mais moi, tu sais, je suis un gars de camion pleine grandeur. Je ne vous le cacherai pas. Mais vous savez à quoi vous attendre avec un Maverick.
Exact, exact. Tu voulais nous parler de ton essai de la semaine, la fameuse IONIQ 9. Est-ce que c'est un véhicule que tu as apprécié?
C'est un véhicule que j'ai énormément apprécié. C'est un véhicule que j'ai trouvé impressionnant. Qu'est-ce qui est venu un peu me conquérir? Bon, premièrement, le look, c'est une histoire de j'aime, j'aime pas. Le côté surutilisation du pixel est fou raide. Je l'ai dit dans mon vidéo, c'est plus un véhicule avec lequel tu vas dire hey, aujourd'hui, il faut que je m'en aille aux pneus canadiens pour acheter une ampoule de remplacement parce que j'ai une ampoule de brûlé en avant. Oubliez ça, ça va être quand même assez complexe. Mais, outre le style, que c'est un j'aime, j'aime pas, c'est un véhicule qui est extrêmement efficace. Et pourquoi? Parce qu'on utilise une batterie à haute capacité de 110,3 kWh. C'est plus de 500 km d'autonomie pour ce véhicule-là, peu importe la version qu'on choisit. Et la consommation, quand j'ai fait le test de plus de 200 km dans le lancement de presse, j'ai été impressionné par sa faible consommation d'énergie pour la grosseur d'un véhicule comme ça,
ah,
trois rangées.
C'est un trois rangées, c'est ça. Hein?
Puis, c'est ça, exact.
Les subventions, tu as un 4000 de subventions qui vient avec le programme Rouler Vert encore ou c'est terminé ça?
Non, il y a encore des subventions pour ces véhicules-là. Rappelez-vous, hein, on avait coupé, on avait fait un retour et ainsi de suite. Bon, ce n'était pas nécessairement évident. Il y a quand même une aide qui est disponible. Tous les véhicules sont saisis sur les sites et je ne vous le cacherai pas qu'on positionne encore une fois le prix pour l'accessibilité à la fameuse subvention, comme on dit. Je reviens un peu sur le comportement routier versus son cousin coréen, le Kia EV9. C'est sûr que le cousin coréen, lui, a des versions un peu plus performantes, un peu plus sportives. Un empattement beaucoup moins long, donc change beaucoup au niveau du comportement routier, va offrir plus sportif, moins confortable. Mais là où est-ce que le IONIQ 9 passe la gratte, c'est sur son confort incroyable intérieur, le silence aussi, qui est assez impressionnant, et non seulement l'utilisation de la dernière rangée dans laquelle moi-même, un grand gaillard comme moi, a un espace acceptable au niveau du dégagement de la tête, et sans oublier aussi qu'un confort qui est meilleur comparé à tout ce qu'on retrouve sur le marché présentement. Donc, il y a différentes versions. On peut passer de 215 chevaux propulsion à 422 chevaux traction intégrale et un couple de 258 jusqu'à 516 livres-pieds. On parle d'un 0-100 qui passe soit de 9.4 en version de base, qui est en masse pour tout le monde, à 5.2 secondes. Tantôt, quand je vous disais que ce n'était pas tout à fait aussi sportif que l'autre, c'est quand on arrive en virage qu'on sent un petit peu plus. Et avec ça, capable de remorquer jusqu'à 5000 livres, et l'IONIQ va ajuster automatiquement l'autonomie selon le poids qu'il va détecter dans la remorque en arrière. Okay. Donc, est rendu loin, comme on dit.
Parlant de l'autonomie, là, est-ce que tu étais capable de respecter le 540 km avec la pleine charge?
Facilement, de notre côté. Nous, on avait une version pleinement équipée qui tourne aux alentours de 500 km plus que 540 km. Et je dois vous dire qu'à la fin, je vais retourner même dans mes notes là, pour vous redonner le détail. Je vais même retourner dans mon image pendant le temps que je vous parle. Quand on a fait notre essai, premièrement, il faut dire aux gens qu'on avait une route qui était variable. Okay? Donc, c'était de la côte, c'était de la ville, c'était un peu d'autoroute. Et j'étais avec mon collègue Paul Robert Raymond, que je devrais appeler le rapide et dangereux du soleil. Mais non, je blague. Mais il y a quand même, lui, quand il évalue un véhicule électrique comme moi, on voit les accélérations, on regarde comment c'est. Donc, on n'a pas commencer à conduire en grano, en verre. Hein? Je vais économiser mes kilomètres, pas de climatisation. Non, non, on a tout ouvert ça. Donc, sur 244 kilomètres, on a fait environ une consommation moyenne de 20,6 kWh. Donc, il nous restait 292 kilomètres en moyenne en tant que tel, avec lequel on aurait pu aussi rouler au niveau du véhicule. Donc, quand on accumule le tout, je vais être franc avec vous, j'ai été énormément surpris de ce que ce véhicule-là peut faire parce qu'on aurait fait environ jusqu'à 536 km. Donc, c'est plus que ce qui est annoncé pour cette version-là. On n'était pas dans un climat ultra chaud, on n'était pas dans un endroit où ce que c'est uniquement de la ville. On a vraiment fait un mix et je dois avouer que leur efficacité au niveau de l'aérodynamisme, sachez qu'il est meilleur que des voitures électrique chez Hyundai présentement pour un gros véhicule comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins de résistance, une meilleure autonomie électrique et non seulement aussi un silence incroyable. Je vous le dis, ça glisse dans le vent, ce véhicule-là. C'est impressionnant.
Le véhicule que tu nous parles, le IONIQ 9, est-ce que c'est autour de 80 000 $? C'est une question d'auditeur. Je pense que c'est ça, hein? Le gros modèle, c'est 80 000 $ et plus, là.
Ça, c'est le cas classique des véhicules électrifiés présentement. Et je vais inviter les auditeurs à aller voir mon essai. Là, je fais un peu d'autopromo, mais c'est parce qu'en même temps, des fois, ça nous amène à vous démontrer certaines pensées qu'on a en lien avec l'automobile. Si on veut tout de suite aborder le côté prix, un modèle de base qu'on appelle Essential, essentiel, en propulsion, va être à 59 999 $. D'accord? Et si on y va avec une version pleinement équipée, Ultimate Calligraphie, on parle de 81 500 $. C'est sûr qu'il y a d'autres modèles entre les deux.
Ouais.
Moi, si vous voulez ma recommandation, je vous dirais, allez chercher, si votre préoccupation, c'est de sauver de l'essence et d'avoir un véhicule électrique, allez chercher le modèle traction intégrale, ça là de base, pas avec tout le flafla, là. On parle de 65 000 $. Bien entendu, à ça s'ajoutent toutes les patentes que vous voulez. Si vous le dealez, tant mieux. Mais n'oubliez pas une chose, gardez-vous un petit budget pour les pneumatiques. Ça, j'ai mon œil là-dessus. Je déteste les pneumatiques un peu de base sur les véhicules car ils fondent très vite. Et n'oubliez jamais que même si on vous dit qu'il n'y a pas d'entretien, rien, n'oubliez pas les alignements, c'est quand même ça. N'oubliez pas au niveau des freins, même si vous n'en servez pas souvent, parce qu'en passant, la conduite à une pédale est exceptionnelle sur ce véhicule-là. Si j'ai touché 5 fois au frein en 244 km, je serais impressionné. Et l'efficacité pour régénérer l'énergie, non seulement est là, mais dites-vous qu'un véhicule lourd comme celui-ci, avec un empattement comme ça, avec des fois le fait qu'on va pousser ou remorquer, n'aurait pas une durée très très longue des pneumatiques d'origine. Donc, dites-vous que ça coûte cher.
Est-ce que les constructeurs vous parlent du remplacement de batterie, la durée de vie de la batterie, puis si jamais la batterie est terminée, ben voici comment ça va vous coûter racheter une batterie. Est-ce que les prix sont bien indiqués, puis est-ce qu'ils vous donnent un 8 ans ou un 10 ans de vie de batterie?
On a tellement de questions là-dessus, Mathieu. J'ai l'impression que c'est un stopper pour du monde.
Oui, je sais que c'est un stopper pour du monde au travers de tout ça, mais tu sais, les garanties des manufacturiers là, pour disons, les modèles ioniques sont très impressionnantes. Okay? C'est très long. Pourquoi? Parce qu'on veut justement, je vous dirais, éviter la peur au niveau des gens là, qui auraient la crainte de remplacer une batterie.
Mais c'est quoi une batterie très longue? Parce qu'une batterie, mettons, pour une moto qui est à essence et tout ça, 400-500 $ maintenant. Une moto très convenable. Fait que là, avec ce type de véhicule-là, là, tu dis que la garantie va être plus longue. On parle de quoi?
On parle de 8 ans ou 160 000 km au travers de tout ça. Okay. Et on parle de capacité de perte de la batterie. Donc, cette garantie-là vous garantit qu'on ne perdra pas un maximum, disons, d'efficacité de 70%. Donc, si jamais il y a une perte de 30%, c'est dans la norme. Ça, c'est ce qui est comme marqué sur les différents sites. En passant, il ne faut pas oublier que oui, on a des batteries aussi de base à l'intérieur des véhicules, ce qu'on appelle des batteries 12 volts. En passant, là, avec ton histoire de moto, tu viens de me scier les jambes en deux parce que la mienne est sur le chargeur, puis je me demande si je ne suis pas dû aussi.
Je m'excuse. Donc, je te souhaite de bons contacts, Mathieu.
Je vais checker mes boxeurs en me levant de ma chaise tantôt. Là.
Si tu veux un GoFundMe, tu nous le diras.
Oui, c'est ça. Et je dois vous avouer que c'est sûr que s'il y a un impact majeur, si vous sortez en route puis vous punchez une roche dans la batterie, parce qu'on s'entend, c'est tellement un véhicule de familial qu'on veut des fois aller plus loin dans le bois. S'il y a une bad luck qui vous arrive, vous allez appeler vos assurances et vous allez pleurer, je vous le confirme, parce que le remplacement de ces pièces-là, il s'en fait pas. Il n'y a pas 18 compagnies qui en font là, du aftermarket, comme on dit, là, donc des pièces de rechange, pas nécessairement de la marque d'origine. Et ce qui arrive, c'est quoi? C'est que ça vaut le gros prix. Et des histoires d'horreur, on en a vu au travers du temps, ça a fait mal à la confiance de ces véhicules-là. Mais je vais vous avouer qu'en jouant des garanties aussi longues, de 8 ans, 160 000 kilos, rendu là, si vous avez un doute, vous le vendez, puis c'est poche à dire, mais vous laissez le garage s'occuper avec ça, puis vous repartez avec un autre véhicule. Cependant, quand tu es rendu à 85 000 bâtons, ça coûte cher. Puis, les assurances coûtent cher. Tout est en explosion. Tu sais, le IONIQ 9, là, il est super beau. Il y a des pixels tout partout. Mais la journée où est-ce que Timmy va arriver avec son tricycle, puis il va rentrer, bang, drette dans le devant du Ioniq 9. C'est plus une question de attendre, papa va replacer le pare-choc, là, puis on va être correct, puis on va remettre une petite lumière et un phare Sylvania, là. Non, Timmy, je vais être franc avec vous, là, il va probablement passer le reste de sa vie en maison de correction parce que ça coûte une fortune les moindres impacts sur les véhicules d'aujourd'hui. On est dans ce monde-là et ça mérite réflexion à savoir si vraiment on a besoin de tout ça. On m'en parle souvent et j'essaie d'amener la discussion, mais je suis encore en réflexion.
Des auditeurs qui te posent la question par texto, Mathieu Thomassin, au 418-971-1021. Que penses-tu du Tiguan 2025? On en voit beaucoup sur la route de ces fameux Tiguan-là. J'imagine que c'est très apprécié.
Oui, c'est quand même très apprécié. Pourquoi? Parce que Volkswagen a remis de l'effort dans son Tiguan dernièrement. Celui-là est mieux que les modèles précédents. Est-ce qu'on va jouir d'une fiabilité incroyable au travers de tout ça? Je ne crois pas et ça me reste toujours avec un bémol. Cependant, du côté du comportement routier pour un SUV contact, un SUV compact, c'est le fun, c'est plaisant à conduire, puis l'intérieur est beaucoup plus spacieux qu'il était. Cependant, au niveau des accélérations, il y a comme un lag. Du côté aussi de l'écran, encore le système multimédia, on ne l'a pas nécessairement amélioré au travers du temps. On a amélioré notre formule. Et je vous dirais qu'il y a encore un petit peu de la place au travail, mais les gens l'aiment pour le comportement routier.
Honda Pilot, tu penses quoi de ce véhicule-là? Est-ce qu'en 2026, il y en aura un annoncé, Honda Pilot?
Ben, pour l'instant, Honda, du côté du Pilot, est toujours là, toujours présent. On a fait quand même plusieurs modifications aussi au niveau de ce véhicule-là. On est encore en quatrième génération, si on veut. C'est un véhicule qui va offrir énormément d'espace cargo, facile à conduire. Puis, tu sais, à quelque part, Honda joue la carte sécure, si on veut. Bien entendu, il va quand même avoir un Honda Pilot 2026. On n'attend pas de changement majeur parce que Honda n'est pas nécessairement le plus rapide à changer. Mais c'est sûr qu'aux alentours de 2027, je te dirais, on va commencer à en entendre parler. Seule chose, les modèles de base coûtent toujours plus cher chez Honda. L'écran multimédia est quand même très petit. Tantôt, quand je te parlais au niveau du Ioniq, l'espace de la troisième rangée est impressionnant. Celle-là d'un Pilot, ça fait mal dans les jarrets. Je ne ferais pas Québec-Montréal, voire même Sainte-Brigitte-Québec dans la dernière rangée. Je collerais shotgun sur le siège d'en avant et je regarderais les autres souffrir dans la dernière rangée avec un certain plaisir.
Ben c'est mais pour ça. Nous autres, on ne pense pas à ça, comment ils vont être assis les gens en arrière. C'est pour ça qu'il faut toujours faire appel aux chroniqueurs automobiles pour faire des choix plus précis selon nos besoins. Je te salue, Mathieu Thomassin. Pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur le merveilleux monde de l'automobile, ils peuvent communiquer avec toi de quelle façon? Puis où est-ce qu'on peut te voir?
Ben, on s'en va directement sur la chaîne YouTube Question Auto. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est vraiment l'essai du Hyundai Ioniq 9. Je vous rappelle que j'étais au lancement mondial aussi, donc il y a une vidéo précédente que j'ai fait il y a plusieurs mois qui est là-dessus. Donc, je vous amène une vision vraiment d'un essai en 5 minutes. Moi, c'est sûr, je ne passe pas une heure sur le char, mais dites-vous que ces 5 minutes-là, vous allez ressortir, un, divertissant, mais deux, aussi, surtout avec la connaissance du véhicule puis mon avis correct. Donc, YouTube Question Auto, puis si vous voulez voir comment je suis funky des fois et débile un peu, allez sur TikTok. Je pense que tout le monde de débile est là anyway. Là.
Salut mon ami!
Salut, bye!
Bye, on revient. Marceau le midi.